Radio Kapi. Oh, Kapi. Grâce à Mzati. Masanzi à la présentation de votre journal.
À la une de l'actualité ce soir, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, invite les jeunes à un engagement citoyen pour la défense de la patrie. Appel lancé ce samedi à Kisangani dans le cadre de la campagne des vœux patriotiques qui a débuté hier. En sport, tous les 6 athlètes congolais engagés aux Jeux Olympiques de Paris sont éliminés. Pourtant, le dernier dans la course, Dominique Lasco-Nimulamba, a suscité espoir ce samedi en se qualifiant pour le premier tour, mais sa joie a été de courte durée. Jean Gandou nous retrace le parcours des athlètes congolais à ces Jeux à suivre sous peu. L'invité de ce journal nous vient de Kindu, dans la province du Maniema. Il s'agit de Dr Marie-Claire Manafundo, qui nous parle de la semaine mondiale de l'allaitement maternel instaurée par l'Organisation mondiale de la santé du 1er au 7 août. À toutes et à tous, bonsoir. Ce journal part de la province de la Tchopo, où le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, appelle les jeunes à pouvoir s'engager pour la défense de la mère patrie. Patrick Muyaya leur a lancé cet appel ce samedi au cours d'une conférence axée sur le thème « Tout pour la patrie ». Cette conférence, animée à l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani, conjointement avec 3 autres membres du gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la campagne des vœux patriotiques que ce dernier a lancée hier soir à partir de la ville de Kisangani. Quel est l'objectif de cette campagne, Jacques Mukonkole?
Au cours de cette conférence, les membres du gouvernement ont plus insisté sur le fait que les jeunes à venir de demain ne doivent pas se laisser manipuler par les réseaux sociaux. Pour Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, il fallait leur communiquer la nécessité de se lever et de comprendre les enjeux du pays afin que chacun joue pleinement son rôle.
Nous avons sensibilisé les étudiants parce que ce qui nous concerne ici, c'est d'abord le pays. Ce n'est pas une question qui est liée au président de la République individuellement ou à son gouvernement. C'est une question qui est liée à nous tous. Aujourd'hui, il est important que nous puissions soutenir notre armée dans ses efforts de relance parce que l'armée doit être en mesure de nous sécuriser mais aussi de défendre l'unité nationale.
Si le ministre de la Communication se dit satisfait des échanges qu'ils ont eus avec les étudiants, ces derniers déclarent avoir reçu ce message et promettent de se comporter en conséquence. Tel est le cas de l'étudiante Déborah Limbousou.
Je sais maintenant que je ne peux plus divulguer les informations des fake news sans vérification. Donc je peux juste sensibiliser les autres à ne plus utiliser les réseaux sans être informé d'une bonne manière.
Signalons que le porte-parole militaire, le général Sylvain Ekenge, a pour sa part rassuré l'assistance de la détermination des FRDC à pouvoir reconquérir les zones occupées, quoi qu'il en coûte. Cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue de la République. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, nous apprenons qu'en Ituri, 77 cas de violation des droits humains ont été commis depuis avril de cette année dans la province sous le régime exceptionnel de l'état de siège. Ces chiffres sont contenus dans un rapport de monitoring publié vendredi par l'ONG Justice Plus qui cite parmi les auteurs des militaires des FARDC, des groupes armés locaux et étrangers, mais aussi un groupe de gangs appelé Oulor qui opère dans le centre-ville de Bounia. Cette organisation de défense des droits de l'homme demande à l'État congolais de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité et d'accélérer le programme des DDRCS. Le point de la situation avec Ezekiel Mouzalia.
Dans ses rapports trimestriels, l'ONG Justice Plus condamne la recrudescence des cas de violation des droits humains commis en Ituri depuis le mois d'avril dernier. C'est entre autres vols, pillages, extorsion des biens, incendies des maisons, meurtres par balles ou à l'arme blanche. Après plusieurs mois d'accalmie observée dans la région à la suite des dialogues communautaires amorcés par les autorités, Justice Plus dit avoir notifié 77 cas d'abus et des violations graves à la dignité humaine, dont 14 sont commis par les militaires des FARDC, police, ainsi que certains membres des services de sécurité. Le rapport énumère également une cinquantaine de barrières érigées par des militaires ainsi que des miliciens, notamment sur les tronçons Katoto Largu et Bounia Kasenyi Chomia où ils perçoivent de l'argent. Des allégations que l'armée n'approuve pas encore. Mais aussi la criminalité urbaine perpétrée par un groupe de gangs appelé Oulor dans les centres-villes. Les dispositifs sécuritaires dans les zones restent encore insuffisants pour dissuader les attaques des miliciens et rebelles, notamment à Djougou, Irumu et Mambasa, indique cette organisation qui demande au gouvernement central d'accélérer le programme des DDRCS. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Une autre organisation de défense des droits de l'homme qui hausse le ton nous vient du Nord Kivu. C'est le réseau pour les droits de l'homme, REDO, qui demande la levée de l'état de siège.
Dans un communiqué de presse rendu public hier, cette structure des droits de l'homme estime que l'état de siège n'a pas mis fin au calvaire des populations en termes de violations des droits de l'homme dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Guylaine Kassassia a parcouru pour nous ces documents. Voici son contenu.
Dans ces documents, les réseaux pour les droits de l'homme, RIDO, cite plusieurs manquements liés à l'instauration de l'état de siège. Entre autres, la persistance de l'insécurité, source de plusieurs maux dans les provinces de Nord-Kivu et de l'Ituri, ce qui est à la base de plusieurs cas de violation des droits humains, notamment le nombre élevé de civils tués, particulièrement pendant les attaques des cas de déplacés de guerre. Selon ce même document, seule cette agglomération était occupée par les rebelles du M23 avant l'instauration de l'état de siège dans les territoires de Rutshuru. Aujourd'hui, les rebelles ont élargit leur champ d'action et plus de 50 agglomérations sont passées sous le contrôle de ces rebelles dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Lubero. L'état de siège est aussi à la base de surpeuplement des établissements pénitentiaires et de la lenteur dans les traitements des dossiers judiciaires des détenus. Le réseau pour les droits de l'homme exhorte de ce fait le chef de l'État à lever l'état de siège en vue de permettre à l'armée de se concentrer sur les opérations militaires et ainsi laisser aux civils la gestion des entités administratives, mais aussi permettre aux instances et juridictions civiles de traiter en temps opportun les dossiers sous leurs compétences. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. Le bilan du naufrage de dimanche 28 juillet au beach Kambolé dans la ville de Kindu est revu à la hausse. Dans une déclaration hier devant la presse, le gouverneur précise qu'il passe de 25 à 36 morts. Pour la société civile du Maniema, c'est un énième accident qui survient 2 mois après celui enregistré au niveau de la chute des Kamimbi, ayant causé la mort et la disparition de plus de 100 personnes, constitue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Son président l'a dit dans une déclaration faite ce samedi à Radio Kapi. Maître Stéphane Kamunda la condamne ce qu'il qualifie d'indifférence du gouvernement central et de la présidence de la République face à ces drames ayant coûté la vie à plusieurs Congolais. Maître Stéphane Kamunda l'a joint par Florence Kizalunga.
Il est inadmissible et intolérable que la vie des paisibles citoyens, du reste sacré, soit prise avec beaucoup de légèreté par les services spécialisés qui, pour avoir reçu la corruption, autorisent les tenanciers des bateaux, baleinières, pirogues motorisées ou seules à pagayer d'embarquer des passagers en violation flagrante des lois et règlements techniques de sécurité de navigation intérieure. Tout ceci est la conséquence, certes, de la démission de l'État de façon générale et de l'inattention, l'indifférence des autorités du niveau central du pays à l'égard de la province du Maniema en particulier. La preuve en est qu'aucun message de condoléances, de compassion, moins encore de consolation, tant de la part de la présidence de la République que du gouvernement central, n'a été adressé à ces multiples familles éprouvées et éplorées jusque-là. Pourtant, pour seulement 9 Congolais morts dans les concerts de Kalambay, le VPM de l'intérieur n'a pas tardé de réagir farouchement et d'en condamner les auteurs. Il s'agit là de la politique de 2 poids, 2 mesures.
L'actualité, c'est aussi le lancement depuis mercredi par les gouverneurs de la province du Kassai-Oriental des travaux d'entretien de plus de 252 km des routes des dessertes agricoles. La cérémonie a eu lieu dans le secteur d'Insangu, dans les territoires de Katanda. Ces travaux, qui vont durer 3 mois, consistent au débroussaillage d'axes routiers, nettoyage des fossés existants, déchargement des points chauds, formation de bandes transversales, élagage et abattage d'arbres. C'est ce que nous dit Mbujimayi, Esther Dalafina.
Ces travaux sont financés par le FONER, Fonds d'entretien routier, à hauteur de plus de 400 millions de francs congolais. Ils concernent 5 territoires de la province du Kasaï oriental. Dans le territoire de Chilenge, par exemple, 35 kilomètres de routes de dessertes agricoles seront réhabilités, affirme Jean-Désiré Moukanz, directeur des ressources humaines et représentant du directeur général de l'OVDA. 6 kilomètres de routes seront entretenus sur la RN1, axe Benamulumba-Kamata et 14 km sur l'axe Kakona-Kabengela jusqu'à Changa. Sur la RN2, axe Nkwadi et Kadisanga, 15 km seront entretenus. Dans les territoires de Katanda, sur la RN1 jusqu'au barrage Tchala, 20 km seront réhabilités, tandis qu'au niveau du barrage Tchala-Kabala, 30 km pour un total de 50 km. Dans les territoires de Niabi, c'est 54 km de route à réhabiliter. Les travaux seront effectués à partir de Boya-Miketa jusqu'à Kasenga, 26 26 km, et Bakwampata Luanga jusqu'au marché Nkumba, 15 km, et Bachilanga jusqu'à Bakwakanda, 13 km. Dans les territoires de Lupatapata, 56 km seront réhabilités et 57 km de route seront réhabilités dans le territoire de Kabeyakamwanga. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit dans la province du Congo central où le collectif des jeunes leaders de Moanda veut plus d'éclairage sur l'utilisation des 10 millions de dollars américains de redevances pétrolières issus de l'avenant 09 signé par les chefs de l'État. Cette structure a porté plainte au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre la commission de gestion de ces fonds CGFM destinés au développement du territoire de Moanda à titre de redevances pétrolières. Le collectif des jeunes leaders de Moanda reproche à la CGFM des détournements d'un million de dollars américains alloués au financement des structures des jeunes et des femmes, mais aussi plusieurs autres millions de dollars américains destinés au financement des projets à impact visible, dont les travaux d'électrification de la cité de Moanda. Armel Loubadika, président de cette structure des jeunes de Moanda, parle des motivations de cette plainte au micro de Nana Plurich Mambo.
Nous avons porté plainte contre la CGFM pour détournement des 10 millions de dollars de la VNANF que le chef de l'État avait octroyé pour le développement du territoire de Moanda tout en s'y référant sur les projets prioritaires. Mais son exécution pose problème jusque-là au niveau du territoire de Moanda vu les délais que celui-ci a pris. Donc c'est inconcevable. Au mois de décembre, la structure avait pris en location des transformateurs pour simplement flouer la population moandaise sous prétexte qu'elle a acheté. Mais lorsqu'elle a présenté son rapport à l'équipe de la présidence, nulle part les rapports a repris l'achat des transformateurs. Pourquoi cette farce? Cette structure a menti même au chef de l'État que les territoires de Moanda allaient être électrifiés le 20 décembre 2023. Malheureusement, le chef de l'État l'a annoncé, mais jusqu'à ce jour, Moanda n'est pas respecté. Cette structure avait prévu de financer la construction des forages et à l'appui à la desserte d'eau potable dans les territoires de Moanda via la régie des eaux. Malheureusement, la régie des eaux n'a pas réussi à un financement quelconque.
Contactez la commission de gestion des fonds de Moanda, CGFM, à travers son chargé de communication, appelle les plaignants à avoir suffisamment de preuves de détournement dont ils accusent cette structure. Au cas contraire, ça sera une imputation dommageable. Selon Nelson Tamba, la CGFM a déjà fait face à une enquête de l'IGF et à une mission d'audit de la présidence de la République concernant la gestion de ces 10 millions de dollars. Par ailleurs, 250 jeunes de Bukavu sont en formation sur le leadership et le développement personnel à l'hôtel Panorama. Une initiative de l'ASBL Kesho Congo qui a pour cible les femmes, les enfants et les jeunes. Formation organisée dans le but de susciter l'engagement de la jeunesse en transformer la vie de la société, impacter les autres et investir dans les générations futures. Radio Kapi Bukavu, Rachel Kesembangu.
Une formation qui aide les jeunes à voir au-delà de ce qui est appris à l'école ou à l'université, une formation pour la vie. Des connaissances permettant à faire face aux défis liés à la vie difficile, à l'emploi, à l'entrepreneuriat. C'est ce que pense Daniel Rugen, jeune participant.
Un leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui contrôle, qui donne des ordres. C'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de soi-même d'abord, pour être à l'écoute des autres. Et puis les développements personnels, j'ai compris que c'est tout ce qu'il nous faut, nous, la jeunesse congolaise, pour pouvoir avancer. Nous sommes en train de rechercher le développement de notre pays, mais nous attendons ces développements-là des autres. Nous oublions que nous sommes les contenus de ce continent-là duquel nous recherchons le développement.
Le formateur affirme qu'on a du potentiel et ce potentiel est fait pour être amélioré. Docteur Michel Mouvoudi.
Je voudrais, à travers ces formations, pousser les jeunes à prendre l'action, à comprendre déjà le fait d'être humain, on a un potentiel. Mais ce potentiel va devenir rentable, va devenir distributif lorsque nous allons y investir. Et cette question d'investissement dans son développement est d'abord une question personnelle.
Signalons que cette formation de 3 jours se clôture ce lundi 5 août. Bukavu, Rachel Kisimbangu, Radio Okapi.
Nous le disions dans les titres, en sport, tous les 6 athlètes congolais engagés aux Jeux Olympiques de Paris ont été éliminés précocement. Dernier encore dans la course, le sprinter Dominique Lasconi Moulamba a suscité espoir ce samedi 3 août en se qualifiant pour le premier tour après avoir fini 3e au préliminaire avec 10 minutes 54 secondes. Dominique Lasconi Moulamba a donc été repêché comme meilleur temps. Il s'est classé juste derrière le Kenyan Nickel Harris et le Polonais Lalou Muhammad. Sa joie a été de courte durée parce qu'il a été aussitôt éliminé au premier tour après un temps de 10 minutes 53 secondes. Retour sur la participation des athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Paris avec Jean Gand.
La série noire a commencé samedi 27 juillet dernier à l'Arena Champ de Mars avec le judoka Arnaud Kisoka. Il a été éliminé par abandon plus d'une minute seulement après le début du combat. Trois jours après, la boxeuse Marcela Sakobi a été aussi éliminée au 16e de finale. Elle avait pourtant bien commencé en remportant le premier round avant de se faire rattraper au deuxième et de perdre le troisième au point 2-3 face à l'Ouzbek Sitora Turdubekova dans la catégorie des moins de 57 kilos. Exemptée de tour préliminaire, la boxeuse Brigitte Bambi a été aussi écartée jeudi 1er août en 8e de finale. La pugiliste congolaise est tombée devant la Thaïlandaise Jean-Jaëm Suwanathan dans la catégorie des 66 kilos sur la note d'1.4. Le même jour, le nageur Aristote Ndombe a été aussi éliminé. L'ambassadeur congolais a fini la course à la 6e place avec 29 secondes 4 dans la 2e série. L'autre nageur, Arnaud Ipelenga, n'a pas aussi fait mieux. Ainsi, la RDC court toujours derrière la première médaille olympique de son histoire qui s'éloigne aussi à chacune de ses participations aux Jeux olympiques. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les établissements pénitentiaires du Bénin sont surpeuplés, révèle un rapport de Amnesty International rendu public le 1er août 2024. L'ONG a été autorisée à visiter les 11 prisons béninoises et à mener une enquête auprès des détenus et gardiens pendant un an. Le constat est alarmant, forte densité et conditions extrêmement difficiles à l'intérieur.
L'invité.
La semaine mondiale de l'allaitement maternel du 1er au 7 août a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette semaine vise à susciter et à encourager la communauté, les femmes, à une bonne pratique de l'allaitement pour permettre aux enfants de bien se développer. Pour en parler, nous recevons Dr Marie-Claire Manafundo, elle est coordonnatrice du programme Santé Mère et Enfants appuyé par GBGM Global of Health au sein de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Elle s'entretient à Kindu dans la province du Maniema avec Florence Kizalunga.
Docteur Marie-Claire Manafundo, bonjour.
Bonjour Florence.
Nous sommes à la semaine d'allaitement. Pourquoi avoir instauré cette semaine et c'est quoi son objectif?
Nous sommes pendant la semaine mondiale d'allaitement maternel prônée par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé s'occupe des différents indicateurs dans le domaine de la santé. Et dans le cadre de ces évaluations, ils ont remarqué qu'il y a une fossée. C'est-à-dire l'allaitement maternel n'est pas correctement pratiqué. C'est comme ça, on a instauré cette semaine question de rappeler à des pratiquants l'importance de cet allaitement maternel par rapport à la santé de l'enfant qui est l'avenir de demain.
Alors, quel est l'avantage alors pour la mère et le nourrisson de respecter cette période d'allaitement maternel?
En fait, les avantages sont vraiment énormes et de très grande valeur parce que par là de l'allaitement maternel, nous prenons d'abord l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois. Pendant cette période-là, c'est une période où l'enfant doit recevoir les différents éléments dont il a besoin pour se constituer. D'ailleurs, nous parlons même que l'allaitement maternel, c'est le premier vaccin de l'enfant. Alors, c'est ce qui aide l'enfant à se protéger contre les différentes infections de malnutrition. Nutrition, ce qui expose la santé de l'enfant à des problèmes qui peut lui amener à ne pas être un adulte responsable, un enfant bien formé. Et donc, l'allaitement maternel est très, très important parce que dans l'allaitement, nous avons tous les éléments qu'il faut pour la santé de l'enfant, dont assez de vitamines, beaucoup d'eau pour que les mamans ne disent pas que non, cet enfant est en train de trop pleurer, il fait très chaud, il faut lui donner tout ça. Que la maman mange, que la maman boive de l'eau, c'est suffisant pour la santé de l'enfant parce que en dehors de l'eau, en dehors des vitamines, il y a les enzymes, mais il y a encore d'autres facteurs très importants pour le développement complet de l'enfant.
Et du côté de la mère elle-même?
C'est de l'amour, de l'affection qu'on est en train de donner à l'enfant. Et aussi, ça fait partie de nos méthodes dans le cadre de planification familiale. Donc, une femme qui allaite bien peut tomber enceinte difficilement pendant cette période d'allaitement maternel correctement pratiqué. Ça fait partie aussi des économies. Vous imaginez un enfant qui est nourri au lait de vache, comme l'un de nos professeurs disait, pour ne pas citer son nom ici, si vos enfants sont des enfants de vache, donnez-leur le lait de vache. Mais si ce sont les enfants des humains, il faut leur donner du lait des humains dans l'allaitement maternel.
Docteur, est-ce qu'il y a une différence vraiment très visible entre un enfant qui a respecté l'allaitement maternel exclusif et celui qui n'a pas respecté?
Une très grande différence, Florence, c'est parce que cet allaitement exclusif de 0 à 6 mois fait partie des indicateurs dans les programmes que nous sommes en train de coordonner avec GBGM, Global Health, dans le cadre de l'Église méthodiste unie au Congo-Est. Ces enfants qui sont mis exclusivement sous le sein de leur maman de 0 à 6 mois ne posent pas de problèmes de santé. Ce sont les enfants bien battus. En dehors de 6 mois, on va progressivement ajouter d'autres choses, mais dans le sein de sa maman, l'enfant continue à bénéficier des éléments dont il est nécessaire pour bien se défendre dans la vie.
Alors, depuis l'instauration de cette semaine mondiale d'allaitement, avez-vous observé un changement de comportement du côté des femmes ou des familles?
Oui, ce sont des rappels parce que ça fait partie des pratiques qui est un peu routinière par rapport au programme que nous sommes en train de coordonner. Encourager les mamans à pratiquer l'allaitement maternel et aussi, surtout, exclusif de 0 à 6 mois. Beaucoup d'avantages que les familles obtiennent parce qu'un enfant qui est malade, ça consomme le budget de la famille. Un enfant qui est nourri au lait de vache, ça fait partie d'un budget pour l'économie de la famille, ce qui diminue aussi la force. Mais quand il est allaité au sein, en tout cas, et la famille, la société économise, la maman bénéficie cette pratique-là, l'une des méthodes contraceptives et l'affection qu'il continue à donner à son enfant qui est mis au sein. Nous faisons un appel à la communauté pour soutenir l'allaitement maternel chez les femmes. C'est l'avantage pour la société, pour la famille, pour l'enfant et pour la maman elle-même. Donc, appuyer les mamans à allaiter correctement et le plus longtemps possible pour un avenir radieux des enfants.
Docteur Marie-Claire Manafundo, je vous remercie.
Merci beaucoup Florence, c'est moi qui vous remercie.
Notre invité répond aux questions de Florence Kizalunga. Par ici s'achève ce journal supervisé par Alain Rung et mis en onde par Mimi Kindou. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci pour votre confiance à la fréquence de la paix et bonne suite de nos programmes.